Bonjour à tous, vous écoutez Derrière le rôle, un podcast qui vous permettra d'en savoir plus sur ce qu'il se cache derrière la création de parties de jeux de rôle. En somme, bienvenue dans les coulisses. Et salut à tous, salut à tout amis poditeurs, amis rôlistes, amateurs ou confirmés. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Derrière le rôle. Qui parlera aujourd'hui, toujours hein, dans l'optique de vous donner des trucs et astuces, on parlera aujourd'hui de gérer sa tempo dans les jeux pour éviter de faire des choses trop longues, trop courtes, comment pas se foirer au bout de 4 heures de jeu et s'apercevoir qu'on a fait 10% du scénario. Avant de commencer, j'aimerais remercier énormément Bad Geek qui m'a permis d'héberger mon podcast et qui m'a littéralement donné tous les outils pour le faire dans les meilleures conditions. Je tiens aussi à remercier et à féliciter leur SAV parce qu'on a eu des échanges de mails littéralement improbables dimanche à 23h. Je trouve ça assez fou. Et je rappelle que Bad Geek propose ses services totalement gratuitement pour avoir cherché pas mal de sites qui proposaient la même chose. Ils étaient tous payants. Alors oui, Bad Geek, l'interface n'est pas super opti, mais sincèrement, vous avez littéralement tous les outils pour bien faire. Donc merci à eux, merci à vous les gars, vous faites vraiment un taf super bien. Ensuite, merci à vous qui m'écoutez, parce que sincèrement, quand j'ai commencé ce podcast, je m'attendais vraiment à faire une quarantaine d'écoutes, et en fait, pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai eu quelques retours très agréables. Notamment un qui m'a paru judicieux et que je vais appliquer d'ailleurs dès maintenant. Il s'agirait, dans la mesure où le podcast est un monologue d'environ 30-40 minutes, ça peut être un peu complexe de suivre de A à Z. Donc on m'a dit, fais une pause, fais autre chose pendant 3 minutes, histoire de se divertir et parler d'autre chose. Donc c'est une bonne idée, donc je vais effectivement faire une interlude, et au milieu de cet épisode, je vais parler d'autre chose, tout simplement, pendant 3-4 minutes. Ça vous laissera le temps, si ça vous tente, d'aller boire un verre et de revenir en pleine forme. Voilà, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant de la temporalité. Alors la temporalité, bien évidemment, c'est pas de dire aux joueurs, vous avez jusqu'à ce soir pour effectuer votre quête. Non, non. La temporalité, ça consiste à définir dans un premier temps la durée d'une partie. Vous n'allez pas du tout faire les mêmes choses si votre partie va durer 8 heures ou si elle va durer 2 heures. Alors, il faut savoir qu'il y a des parties qui se font même en 1 heure. C'est un format que j'apprécie moyennement parce que j'aime bien poser les choses, prendre mon temps. Mais il s'avère avec le temps que les enfants, le travail, les impératifs de la vie font que c'est très difficile de jouer 8 heures. À l'heure actuelle, moi ça doit m'arriver à peu près une ou deux fois par an de faire vraiment des parties super longues qui démarrent à 15-16 heures et qui finissent à 3-4 heures du matin. J'adore, mais c'est épuisant. Donc, il nous est aujourd'hui plus facile de caler des parties de 3 heures. Et effectivement, on ne fait pas la même chose. Donc, après avoir fixé la durée de la partie avec vos joueurs, quelle qu'elle soit d'ailleurs, envisagez de faire des pauses durant la partie. On peut très bien, par exemple, après une scène un peu technique de diplomatie avec beaucoup de roleplay dans tous les sens, de dire à vos joueurs, ok, on va se poser 5 minutes, on va, je sais pas moi, fumer une clope, aller au pipi room, boire un coup, faire le plein de boissons, etc. Pour se reconcentrer sur ce qui va se passer ensuite. On peut le faire aussi après un combat. Alors bien évidemment, pas pendant un combat, hein, puisque la tension est à son maximum, et c'est après l'effort que vient le réconfort. Mais c'est très important de se dire que oui, on peut faire des pauses, c'est tout à fait envisageable. Même pour une partie de 2 heures, on peut couper en deux. Et pourquoi pas, en termes de scénario, faire de cette pause une ellipse. Il y a beaucoup de masters qui font les ellipses. Moi-même, je pratique beaucoup parce qu'effectivement, on perd énormément de temps à expliquer à ses joueurs qu'on va faire un voyage de 2 heures, etc. On fait une ellipse, un peu comme Star Wars avec le balayage écran. Vous êtes dans une ville, vous devez aller dans une autre ville, hop, balayage écran, vous y êtes. Vous allez voir que cette pratique est vachement pratique parce qu'on va directement à l'essentiel. Pour une partie courte, on peut, avec un balayage écran, avec une ellipse bien gérée, incorporer beaucoup plus de choses que si on passe 2 heures à dire à vos joueurs « vous vous promenez dans tel endroit » parce que vous pouvez être sûr qu'il y en a un qui va vouloir aller chercher un fameux trésor à droite à gauche. Alors après, encore une fois, il ne s'agit pas de dire non à vos joueurs. Si vraiment ils ont plein d'idées durant le trajet, ma foi, laissez-les faire. Il s'agit encore une fois de procurer du jeu, mais du jeu de qualité, parce que jouer pour jouer, ça va un temps. Il est tout à fait envisageable aussi pour vous de couper votre partie à un moment un peu crucial pour faire la suite quelques jours après. Si toutefois vous avez prévu une partie de 2 heures et qu'au bout de 2 heures, ils en sont qu'à l'intro, bon, c'est peut-être que vous avez mal géré quelque part, peut-être que vos joueurs sont prolixes et qu'ils désirent faire plein de choses avant de réellement commencer la partie, quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien dire « Ok, on a fait cette partie, c'était l'intro de mon scénario, mais soit, il n'y a pas de problème, la prochaine fois qu'on se retrouve, on rentrera directement dans le vif du sujet pour continuer la partie ». Ça, c'est important. Ensuite, sur une partie peut-être un peu plus longue, mais encore une fois, ça dépend le rythme que vous souhaitez donner, n'hésitez pas à faire des alternances. Bien souvent, on rencontre dans des parties des phases d'enquête qui vont durer 3 heures pour arriver au grand méchant de la fin, et le scénario se conclut par un combat d'une demi-heure. Je vous conseillerais d'alterner. Il est fort probable, par exemple, que durant cette enquête, il y ait des gens qui viennent pimenter un petit peu l'enquête, des gens qui s'aperçoivent que les joueurs enquêtent sur eux et vont venir les embêter. Encore une fois, l'alternance d'une partie peut sortir un peu vos joueurs de la torpeur. Si au bout de 3 heures ils sont toujours sur leur enquête, ils vont commencer à prendre une certaine habitude. Et si d'un claquement de doigts vous leur mettez un combat, vous allez voir que leurs têtes vont se relever et ils ne sauront plus où se trouve leur dé. Attendez, j'ai combien en attaque? Ça peut faire partie d'une certaine rythmique intéressante à mettre en place. Ensuite, il y a les combats. Alors les combats, c'est un gros point dans les jeux de rôle et dans toutes mes parties. Moi, les combats qui s'éternisent, ça m'agace. Pourquoi ça m'agace? Parce que bien souvent, les combats, c'est ni plus ni moins qu'une alternance de jet de dés et très rapidement, une interprétation de ces derniers. En règle générale, moi, les combats qui n'ont pas vraiment d'intérêt en termes de danger, je les fais en cinématique. J'arrive à peu près à estimer la force de mes joueurs et j'arrive à estimer l'importance des ennemis que je mets en place. En règle générale, je leur fais faire un jet ou deux, c'est-à-dire un round ou deux, et ensuite je le fais en cinématique. Parce que dites-vous bien qu'un combat, même simple, hein, du 1 contre 4, peut être particulièrement long. Alors après, il y a des joueurs qui adorent ça. Moi, en tant que master, ça m'embête énormément, d'accord? Donc, quand le combat s'éternise et que j'en ai marre de dire « Ok, tu as combien d'initiatives? C'est à toi de jouer. » Là, on attend que la personne lance son dé. On attend sa description. On fait la réaction. Joueur 2, etc. Joueur 3, etc. etc. Moi, ça m'agace. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à zapper des combats. Alors, pas leur dire « Bon, eux, ils voulaient vous combattre, mais finalement, ils partent. » Non, non. Il faut quand même leur donner une impression d'une puissance de danger. Parce qu'ils peuvent très bien, très mal s'y prendre. Si le premier joueur fait un échec critique, alors que c'était un combat que vous deviez passer rapidement, sanctionner. C'est pas grave. Je veux dire, ne le tuez pas, ne tuez pas votre PJ s'il se fait attaquer par du menu fretin, mais rappelez-lui que la vie peut être un peu dangereuse. En revanche, les combats contre des boss, ceux-là, il faut donner un petit peu de rythme. Et comment faire pour un combat de boss, c'est-à-dire un combat qu'on ne peut pas éviter? Eh bien, entre deux rounds, essayez une cinématique. Par exemple, vos joueurs échangent des coups d'épée avec le méchant. Tout d'un coup, ce méchant va se réfugier dans sa cabane qui est à 50 mètres plus loin. Là, il va s'en suivre, vous allez le constater assez rapidement, une petite baisse de rythme, mais pas au détriment de l'action, puisque les joueurs vont un peu se recentrer, vont faire un petit peu le point sur ce qui vient de se passer. Attends, je l'ai attaqué 2 fois à l'épée, il a pris aucun dégât, maintenant il s'est caché, comment on va faire? Est-ce qu'on va encercler sa cabane? Est-ce qu'on va défoncer la porte? Est-ce qu'on va parlementer avec lui? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut laisser toutes les options à vos joueurs. Et si ce méchant que vous aviez prévu mort à la fin du scénario, et bah, si les joueurs décident de tenter l'aspect diplomatique avec lui, ça peut très bien être, pourquoi pas, un allié pour plus tard. Ça, c'est des options qu'il ne faut pas négliger. Mais n'oubliez pas vraiment que pour les combats, il va vraiment falloir faire des classifications d'ennemis. J'en avais parlé dans les épisodes précédents. Il y a, selon moi, 3 types d'ennemis. Le menu fretin, ce ne sont que des poussières qui viendront un petit peu gêner les joueurs. Ces combats-là, il faut enchaîner avec des cinématiques. En fonction du style que vous voulez donner à votre partie, il ne faut pas hésiter à embellir la situation en faveur ou en défaveur de vos joueurs. Mais il faut que ça soit rapide, quoi qu'il en soit, parce que le menu frottin, souvent, il se balade en groupe. Vous savez, c'est ces petits brigands à la petite semelle qui se baladent dans les rues le soir, alors que les PJ veulent juste aller se coucher. Bon, cela, c'est très rapide. Ça peut être aussi des gens qui sont là juste pour donner un indice ou pour laisser tomber un objet qui peut aiguiller les personnages. Vous allez pouvoir vous servir du menu frottin pour faire rebondir vos PJ qui peinent un petit peu à avancer dans une enquête. Je sais pas, admettons qu'ils cherchent un médaillon par exemple et ils galèrent à trouver parce que vous n'arrivez pas à leur faire comprendre dans quelle direction ils sont, ou alors parce qu'ils vont à droite, à gauche et ils s'en fichent. Bon bah ils se font attaquer par un groupe de 5-6 brigands, et puis en les tuant ou en les chassant, il y en a un qui fait tomber un indice par exemple. Ce genre de combat, il faut pas en avoir peur, parce que souvent on se dit, si je mets un combat c'est long, ou alors je maîtrise pas très bien les règles du combat. Mais soit, encore une fois, c'est vous le maître du jeu. Si vous voulez que le combat il prenne 20 secondes, il prend 20 secondes, ok. Ensuite, il y a les méchants avec un petit peu plus d'importance, avec un petit peu plus de consistance. En règle générale, ce sont des méchants pour lesquels vous avez travaillé un BG. Ces méchants-là, c'est un peu délicat de les tuer, parce que souvent, ils ont un apport vraiment important et réel dans l'histoire. Donc cela fait durer un peu les choses, et si possible, enfin en fonction du BG que vous leur avez trouvé, si possible, mettez-les en sécurité assez rapidement. Et enfin, pour finir, il y a les boss, ce qu'on appelle les boss communément, j'aime pas trop ce terme, mais pourquoi pas, c'est vraiment l'ennemi important de la partie ou de la campagne. Cela, en règle générale, vos joueurs voudront l'affronter, parce qu'ils auront fait tout un cheminement dans leur scénario, tout un cheminement dans leur développement de personnage pour l'affronter. Et ce serait selon moi dommage de passer à côté. À moins, encore une fois, que les joueurs n'aient décidé plus tard de s'en faire un allié, ou que vous ayez, vous, des idées pour la suite à donner à ce personnage. Il m'est arrivé de faire courir les PJ après un type, et au fur et à mesure du développement des scénarios, les joueurs m'ont donné pas mal d'idées concernant les origines de cette personne, alors que je l'avais pas du tout créé, mais j'ai pris des notes, encore une fois la prise de notes, et puis j'ai trouvé intéressant de faire en sorte que finalement ce grand méchant devienne encore plus terrible. Et donc à la fin du scénario, j'ai bien fait comprendre aux joueurs qu'ils étaient encore tout petits, et ça a donné suite à une autre campagne où ils ont pu continuer à l'affronter. Souvent on retrouve ce genre d'exemple dans les films en trois tomes, par exemple je sais pas, dans Indiana Jones, bon, il combat très souvent les nazis, il est hors de question que dans le premier film ils détruisent tous les nazis. Non, il va y avoir une espèce de fil rouge de méchants mis en place par le scénariste. Et à ce compte-là, toujours dans l'optique d'optimiser son temps de jeu et de le rendre le plus accessible possible, vous pouvez être sûr que si toutefois vous, en tant que MJ, vous avez un petit moment de défaillance, c'est-à-dire que vous avez un petit blanc, vous êtes fatigué, les joueurs vont vous le rappeler. Eh bien, vous pouvez faire exactement pareil. Quand vous voyez un joueur qui, malheureusement, sort son téléphone et commence à envoyer des SMS, vous pouvez le mettre directement devant le fait accompli. Et toi, tu fais quoi? Je fais quoi de quoi? Parce qu'en fait, l'ennemi se sera attaqué à lui, alors qu'en fait, il n'est pas du tout dans le combat. Mais vous pouvez faire intervenir quelque chose pour donner ce petit coup de peps qui va permettre au joueur de se dire « Ah oui, attends, je m'étais endormi quelques secondes, je vais être dedans ». Encore une fois, il va falloir être attentif à ces signes, parce que il y a clairement des joueurs qui vont faire des apartés de temps en temps, qui peuvent un peu nuire au récit, nuire au rythme. Il va falloir corriger le tir assez rapidement. Alors l'astuce que j'ai moi dans ces cas-là, alors certes c'est un peu du méta, mais si je vois qu'un joueur est un peu distrait ou n'est pas dans sa narration parce qu'il m'a fait une partie de 3 heures où il était à fond et puis qu'à un moment donné il y a un peu de déclin, alors encore une fois ça arrive, hein, on est tous humains, hein, sur 3 heures on peut pas être concentré 3 heures, mais ce que j'aime bien faire c'est à un moment donné le joueur me dit « Ah, je sors ma dague », et là je lui dis « Ben non, tu n'as plus ta dague ». Bah comment ça? Bah oui, tu étais un peu distrait tout à l'heure, t'étais un peu dans les nuages, alors sans lui dire, bon bah c'était pendant la partie ou à la table, peu importe, mais quelqu'un t'a abordé et t'a sans doute volé ta dague. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de détruire l'intégralité de l'inventaire d'un joueur, mais vous pouvez très bien dire « Ah bah tiens, d'ailleurs, tu la vois partir au loin », auquel cas ça redonne un petit peu d'action. Tout ça, c'est des petites astuces. Après, chacun y trouve son compte. Moi, je sais que avec les joueurs que j'ai souvent à ma table, ça marche plutôt pas mal. Et donc, comme promis, on va faire la petite interlude. Alors, figurez-vous que depuis que je joue au jeu de rôle, je n'ai jamais jeté une feuille de personnage, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plein de classeurs bourrés ras la tronche de feuilles de perso. Alors, il y en a dont je me souviens plus trop, il y en a où c'est illisible parce que elles ont pris la flotte. Quoi qu'il en soit, j'ai face à moi le premier classeur de jeu de rôle que j'ouvre devant vous. Alors bien évidemment, on est en audio, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais là, voilà, j'ai du World of Darkness, j'ai du Deadland, j'ai du L5K. Et je souhaiterais m'arrêter sur un personnage de Star Wars D6. Alors, de là à dire si c'est la V1 ou pas, je ne sais pas. Bref, j'incarnais un Verpin qui s'appelait Slime Daikta. Pourquoi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette partie m'a particulièrement marqué parce que je la jouais en club de jeux de rôle. Il y avait... écoutez bien, 13 joueurs et 2 masters. Et je ne sais pas comment ils ont fait leur truc, mais c'était divinement bien mené. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû faire un choix. On devait attaquer une planète, je crois. Et il y avait un groupe qui attaquait par la Terre et un groupe qui attaquait par l'air, par l'espace, là, en l'occurrence. Et donc, du coup, on s'est scindé dans 2 salles différentes. On faisait nos débriefs, on faisait nos actions. On faisait une petite pause de 5 minutes, les masters se réunissaient pour mettre un petit peu en commun les actions des joueurs et pour interagir avec. Tant et si bien qu'à un moment donné, nos 2 groupes, alors bien évidemment, chaque groupe avait 1 ou 2 leaders, parce que sinon c'était un peu cacophonique, 2 joueurs qui s'expriment en même temps, c'est un peu compliqué. On avait face à nous 2 masters et un tableau blanc qui prenaient des notes, et les 12 joueurs assis religieusement à les écouter. Et l'idée, bah, c'était bien évidemment de coordonner nos attaques pour que ça passe. Et donc voilà, c'était, alors, je connais plus le nom des maîtres, mais c'était une des parties qui m'avait vraiment marqué parce que moi, au-dessus de 4 joueurs, je suis littéralement dépassé. Et eux, ils en géraient entre 5 et 7. Tout ça mis en commun avec parfois des joueurs qui décidaient d'atterrir sur la planète. Donc ils rejoignaient le groupe de l'attaque terrienne. D'autres qui étaient évacués, ils rejoignaient le groupe de l'attaque aérienne. Et voilà, c'était vraiment assez fou. Alors bien évidemment, comme tous mes persos, j'ai 15 feuilles de notes. Là, je vous cache pas que j'ai pas trop le temps de les relire, mais j'ai tout un tas de noms de PNJ qui me reviennent, de PJ, des potes avec qui je joue, que je vois plus, mais voilà, c'était assez fou. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, gardez vos feuilles de PJ dans un classeur, mettez-les de côté, oubliez-les, et je peux vous assurer que des fois, vous allez les réouvrir. Et il y a plein de souvenirs comme ça qui vont ressurgir. Il y a aussi l'évolution dans sa façon de gérer une feuille de PJ. Je sais qu'avant, j'étais un peu brouillon, je marquais tout et n'importe quoi. Et je les refaisais au propre. C'était un de mes grands kiffs, ça, pendant la partie. Je reprenais une feuille vierge et je réécrivais au propre toutes mes notes, etc. etc. Et là, c'est assez bien structuré. Hein. Je jouais a priori un personnage qui était plus mental, qui était un peu mécano. J'avais 3D plus 2, c'était pas fou non plus. J'avais un sabre laser, tiens. Un vert et un violet, mais allez, pourquoi pas. Voilà, alors c'est les anciennes feuilles de Star Wars D6 que j'aime beaucoup, moi. C'est relativement classique. Très peu d'infos, c'était à nous de tout mettre. Et c'était pas recto verso. Voilà, ça, c'était la grande mode aussi des personnages où il y avait 18 feuilles, une feuille d'équipement, une feuille de... C'était un peu chiant, mais là non, c'était assez... assez concis avec, on retrouve ce carré là assez emblématique où on pouvait dessiner son personnage, et c'était un de mes joueurs d'ailleurs, un de mes joueurs que vous allez rencontrer pendant la partie, qui m'avait dessiné cette tête de fourmi là, puisque je jouais un Verpin de 47 ans, 1m95, information extrêmement importante, pour 77 kilos, ça aussi c'est super important, ah non 79 pardon, j'écrivais mal, donc voilà, tout ça, des petits détails qu'aujourd'hui on note plus, quoi, parce qu'on s'en fiche un peu de savoir que tu fais 79 kilos, à moins qu'il s'agisse d'un univers contemporain où il y a un poids maximum dans les ascenseurs, auquel cas ça peut poser problème, mais là, faudrait vraiment être le style de maître du jeu qui adore la virgule, qui va faire que ça va être possible ou pas. Donc voilà, c'était mon petit interlude. Et on reprend donc avec... Attendez, je vais ranger hop, mon petit classeur sur la droite. Voilà, on va reprendre, parce que j'en ai à peu près fini avec la tempo, je reviendrai peut-être dessus très brièvement, mais je pense que j'ai dit le gros du sujet. On va reprendre avec 2 petites astuces. Donc la première, c'est le TGCM. Alors TGCM, ça veut simplement dire « ta gueule, c'est magique ». C'est-à-dire qu'en tant que MJ, vous allez proposer des idées à vos joueurs et vous allez forcément avoir un joueur qui va dire « Mais non, c'est pas possible d'allumer un feu avec des bambous parce qu'il faut une matière vachement plus faible que le bambou. » Enfin bref, des joueurs qui vont pinailler. Et parfois, en tant que MJ, c'est un peu pénible. Alors on va essayer d'argumenter. « Oui, mais tu as un bambou très sec et tu peux faire du feu. » « Ah mais non !» C'est pas possible, parce que le bambou sec ne se trouve pas dans cette région du monde. TGCM, ta gueule, c'est magique. Alors c'est très réducteur, attention, hein. Moi je l'utilise très peu. À limite, faites un petit ta gueule, c'est comme ça. Hein. Mais le ta gueule, c'est magique, ça peut marcher bien. Surtout quand vous êtes MJ débutant, que vous avez un peu du mal à rebondir sur vos idées extrêmes de vos joueurs les plus puristes, vous faites un petit TGCM, voilà, vous êtes tout le monde connaît, et si la personne ne connaît pas, elle va vous dire c'est quoi TGCM, et ben vous lui dites simplement ta gueule, c'est magique. Alors bien évidemment, vous pouvez derrière lui dire non, mais je te dis TGCM parce que dans le récit ça a son importance, mais je peux vous assurer que pour jouer avec des joueurs un peu techniques, par exemple, je sais pas moi, j'ai rencontré une fois un ingénieur qui était en charge de trouver les sources d'eau dans les terrains pour viabiliser ou non ce terrain. Donc le mec, il voyait une grappe d'herbe, il était capable de dire la quantité d'eau qu'il y avait sur les 100 mètres alentour. Bon, et ben quand vous faites une partie qui se passe dans les marais avec un joueur comme ça, ça peut vite devenir pénible. Vous avez besoin que l'action se passe dans les marais, vous avez prévu des choses en rapport avec le marais, vous pouvez être sûr que cette personne va venir vous voir en disant « Non, en fait, ce n'est pas possible, parce que s'il y a des montagnes à 20 km au large, les marais ne peuvent pas se produire, parce que les sédiments que dégage la montagne de par sa végétation empêchent la création de marais. » TGCM, voilà. Je suis navré, mon ami, TGCM, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça va vous arriver très souvent d'arriver à court d'arguments, hein, parce qu'encore une fois, technicien à la table, TGCM, voilà. Ça, c'est une technique un peu ultime. Vous allez le faire 2-3 fois, et après, il va s'instaurer comme une espèce de complicité avec vos joueurs, c'est-à-dire que dès que la personne va pinailler un peu, vous allez la regarder droit dans les yeux, hein, vous allez froncer un peu le sourcil droit, vous allez faire un peu la moue avec la bouche, et le joueur en face va vous dire TGCM, et là vous dites oui TGCM mon ami, et ça va dérouler. Voilà, encore une fois, il suffit d'instaurer des bonnes bases. Alors, encore une fois, moi je suis pas super fan, mais parfois ça m'arrive, un petit TGCM des familles comme ça, hop, et on enchaîne. Voilà, donc ta gueule, c'est magique. Pas ta gueule, toi, poditeur, hein. Tu peux t'exprimer, surtout dans la mesure où je ne t'entends pas, parce que c'est un monologue et je n'ai pas ton retour. D'ailleurs, si tu as des retours à faire sur ces épisodes, n'hésite pas, je ne te dirai jamais TGCM. À moins que tu pinailles vraiment beaucoup. Deuxième astuce, le dé magique. Alors, dé magique, c'est pas compliqué. Un D6 ou un D10. Préférez le D10 si vous êtes un chouïa expérimenté. Le D6 si vraiment vous débutez. C'est le côté très manichéen de la chose. Admettons que vous décriviez une scène et qu'un joueur vous propose une idée à laquelle vous n'avez pas pensé. Cette idée en soi est bonne ou pas d'ailleurs, mais le joueur y tient. Vous jetez un dé, et si le résultat de ce dé est un 1, l'idée n'est pas possible. Admettons que le joueur ait volé une voiture, et qu'il se dise « Tiens, j'aimerais bien que dans ma voiture, dans la boîte à gants, il y ait un cric. Ça me permettrait d'aller, je sais pas moi, débloquer la porte qui est en face. » C'est une bonne idée. Ça peut un peu nuire à votre scénario, mais c'est une bonne idée. Encore une fois, on ne dit jamais non à un joueur, on dit souvent oui, mais. Bon, et bien moi je dis, ok, oui, je vais jeter un dé. Alors, je suis franc avec le joueur, je dis, je vais jeter un dé. Si je fais un 1, il n'y a pas de cric dans la boîte à gants. Si je fais un 6, il y a un cric dans la boîte à gants. Alors, bien évidemment, vous pouvez tomber sur un 4, ou un 3, ou un 2, ou un 5, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, c'est un des 6, ok ? Bon, et bien, si le résultat se rapproche plus du 6, vous pouvez dire, oui, il y a un cric, mais il n'est pas complet. Il n'y a que la manivelle. 2, vous pouvez dire, oui, il y a un cric, mais il est cassé, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Cette astuce a un double effet qui se coule, dans la mesure où si vous êtes amené à dire non à un joueur, techniquement, ce n'est pas vraiment vous qui avez dit non. C'est le dé. Le joueur sera un peu moins frustré. Il pourra pas dire « Ouais, mais tu dis toujours non à mes idées. » Vous allez lui dire « Ben non, c'est le dé, j'ai fait 1. » Alors, double astuce dans l'astuce, attention, n'oubliez pas que vous êtes le maître du jeu, que vous avez placé tous vos TGCM en amont, que ça n'a toujours pas fonctionné. Le dé magique, que j'appelle dé magique, vous le jetez derrière un écran du maître du jeu. Libre à vous de lire le résultat ou de le montrer aux joueurs. Hein. Vous pouvez très bien jeter un dé. Le dé fait 6, mais vous ne voulez pas que ça se fasse. Vous ne voulez pas non plus trop frustrer le joueur. Donc vous dites, ah bah, il a fait 1. Je suis navré. Voilà, moi, j'utilise souvent cette petite astuce qui m'a aidé à bien des égards, parce que des fois, vraiment, les joueurs ont de très bonnes idées, mais il faut modérer un petit peu ça. Encore une fois, je reviens un petit peu sur l'exemple du joueur technicien, ingénieur dans les sources d'eau. Clairement, si vous faites un scénario qui a un rapport plus ou moins proche avec tout ce qui est aqueux, il va sortir énormément de bonnes idées liées à son expérience personnelle. Le mec a fait des études dans le domaine, tous les jours il voit des sources de flotte, tous les jours il voit des champs inondés, tous les jours... forcément, le mec va avoir des bonnes idées, soit des parades, soit des astuces pour comprendre la scène. Et cette bonne idée, moi, il est hors de question que je lui dise « Non, non, ton idée est très bonne. » parce que c'est ton métier depuis 30 ans, c'est très bien, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Vous jetez un dé. Et après, libre à vous de donner le résultat ou pas, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que dans l'idée du dé magique, le petit côté satisfaisant pour le joueur, c'est si vous le jetez face à lui. Parce qu'il va avoir une idée moyenne, mais c'est une idée, vous ne savez pas trop comment réagir, vous jetez le dé, il fait 6. Sur un des 6, hein, j'entends, et vous pouvez amplifier, embellir un peu cette idée. Et je peux vous assurer qu'avec, en annonçant clairement en début de partie, voilà, j'utilise cette technique du dé magique, vos joueurs vont avoir plein d'idées. Parce que ça peut être qui tout double. Clairement, vous pouvez faire 1 ou 6, mais ça peut être vraiment qui tout double. Alors, le D6, ce serait plus pour les maîtres du jeu qui débutent, parce qu'il y a moins de latitude, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vraiment vous voulez modérer un petit peu l'échec ou la réussite, vous jetez un D20 ou un D10, parce que, bien évidemment, si vous tapez du 11 au 20, ce sera un oui, mais... 20 étant l'excellence, 11 étant oui, mais bon, tu peux avoir, et puis vous pouvez modérer comme ça, 12, oui, mais ton objet est cassé, enfin, ton objet est un peu sale, par exemple, 12, il est sale, mais tu sens que tu peux l'utiliser pas longtemps, 13, il est sale, tu peux l'utiliser pas longtemps, et en plus de ça, il va te donner un bonus, etc., etc., etc. Et si vous faites 1 sur un des 20, c'est un non négatif, 2, non, et tu te blesses par exemple, ou non, et tu t'aperçois que tu t'es coupé, deux, etc. Vous pouvez vraiment modérer vos résultats comme ça. Et une dernière astuce qui paye pas de mine, mais qui m'a aidé à bien des reprises, quand vous prenez des notes pour faire votre scénario, vous avez donc sur votre gauche votre bouquin de règles, dans le meilleur des cas vous n'avez qu'un seul tome, mais dans le pire des cas vous avez 5 tomes, à savoir le livre du joueur, le livre du maître, le livre de la magie, le livre des continents, etc., 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 ça peut être un peu chiant. N'hésitez pas, quand vous prenez des notes pour faire votre scénario, de noter les pages. Par exemple, vous savez que dans votre scénario, vous allez avoir affaire à un combat aquatique, par exemple, et vous allez devoir vous plonger dans les règles de respiration aquatique, d'apnée. Vous savez que c'est à la page 242. Plutôt que dans la partie dire à vos joueurs « Attendez, j'ouvre le bouquin, page 242 », vous avez noté dans votre scénario « Combat aquatique, page 242 ». Auquel cas, dès que le combat aquatique arrive, hop, vous ouvrez votre bouquin, page 242. Par exemple, la règle des magies, je sais que très souvent, la règle des magies, c'est 3/4 des bouquins. Enfin, dans les univers où il y a de la magie, bien entendu. Il peut y avoir des sorts dans tous les sens. Si votre joueur a un sort de boule de feu, par exemple, n'hésitez pas à noter la page. Ou faites-lui noter la page. Par exemple, ok, mon cher joueur, tu as pris le sort boule de feu. Note la page, c'est page 42. Tu prendras en aparté ou pendant la partie, le livre, et t'iras potasser toi-même. N'hésitez pas à impliquer vos joueurs. Hors de question pour vous d'apprendre toutes les règles par cœur. Après, si vous appréciez, soit, mais le fait qu'un joueur se penche sur les règles, ça va avoir l'effet qu'il va pouvoir les faire évoluer, c'est-à-dire qu'il va prendre un boule de feu, et puis après, dans l'évolution de son sort, il va transformer cette boule de feu en, je sais pas moi, des ailes de phénix, par exemple, parce qu'il l'aura lu dans les règles. Si toutefois, il vous demande, on peut faire quoi avec la boule de feu ? Imaginez que tous vos joueurs fassent ça pour chacun de leurs sorts, ça peut vite être pénible. Donc n'hésitez pas à lui dire, ok, t'as pris ton sort de boule de feu, mets la page 42. Pareil, quand vous faites intervenir des PNJ ou les PJ dans un lieu spécifique, notez la page. Cette notation de page, selon moi, devrait être systématique. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet épisode 4. Alors, avec l'expérience, n'attendez pas de moi que je vous dise ce qu'il va y avoir dans l'épisode 5, puisque ça change tout le temps. Au fur et à mesure où je lis des scénarios, au fur et à mesure où je discute avec des amis, je me dis « Tiens, il faut que je parle de ça ». Et ça tombe dans le prochain numéro. Donc, il est hors de question que je vous dise que dans le prochain numéro, je parlerai de mes joueurs. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, ben, tant pis, ça arrivera, c'est certain. Mais il y a peut-être des choses un peu plus importantes, parce que j'estime que parler de mes joueurs, du moins ceux qui aura à ma table, ce sera vraiment les prémices de la création du scénario qu'on va leur faire jouer ensemble. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris du bon temps jusqu'à là. Moi, en tout cas, c'est le cas. N'hésitez pas, encore une fois, à me faire des retours. J'ai mis en place un Discord, j'ai mis en place un Twitter et une adresse mail. Donc, si vous tombez sur le Twitter, n'hésitez pas à me faire un petit DM. Je peux vous assurer que je vais répondre, même si c'est pour m'insulter. N'hésitez pas. Bien évidemment, si vous m'insultez, la réponse qui viendra après, c'est TGCM. Pas besoin d'expliquer, vous avez compris ce que c'est. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ah non, j'oubliais. S'il y a des sujets que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez pas à me les soumettre, on y réfléchira ensemble. Pareil, si toutefois vous voulez intervenir avec moi pour qu'on discute d'un thème bien spécifique, ou même plus général, encore une fois, ça sera vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir à cette antenne. Encore une fois, j'estime que le jeu de rôle, c'est de l'échange. Ce serait vraiment dommage de se priver d'une partie des gens qui nous écoutent, qui partagent ou pas les mêmes idées. Je pense qu'un débat, attention, amical, hein, est carrément envisageable. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour en parler. Cette fois, je vous laisse.